Wise of Cloud.
Bonjour Alexis, what's up?
On va recevoir Jacques Benouachiche et Maya Cousineau-Molène qui vont venir nous parler d'une exposition au Musée des Abénakis d'Odanak, Ota, ici, Outé.
Et en première partie, on va s'entretenir avec M. Patrice Dominique du Toumé Inoun Machias pour nous parler de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Monsieur Patrice Dominique du Toumé. Oui. Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Merci beaucoup de passer du temps avec nous. Donc, pour me mettre en contexte, Monsieur Patrice Dominique est ambassadeur de la Fondation Sur la Pointe des Pieds. C'est une fondation qui vise à changer la vie des jeunes de 14 à 39 ans atteints de cancer en leur offrant de participer à une expédition d'aventure thérapeutique. Vous-même, M. Dominique, vous êtes un survivant du cancer. Et est-ce que c'est ça qui vous a poussé à faire de la course à pied suite à votre rémission? Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de votre expérience?
Moi, j'ai toujours... disons que j'ai toujours couru dans le passé.
OK.
OK. Puis, venant d'une famille... Mon père a eu le cancer. J'ai une de mes soeurs qui a eu le cancer aussi.
Mm.
Quand moi j'ai su que j'avais le cancer, disons, ça a tout la bêche abordé des choses là, mais sur moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu arrêter de courir? Mais on dirait que ça m'a donné un peu plus de pushing.
OK.
De vouloir continuer.
Un élan de courage.
C'est ça. J'ai envie de faire face.
Sans trop être indiscrète, vous avez été en maladie pendant combien de temps? Maintenant, est-ce que vous êtes complètement remis?
Oui, je suis complètement remis. Ça, c'est en 2013.
Bonne nouvelle.
Oui, j'ai eu deux opérations en décembre 2013. Après ça, j'en ai eu une autre en février 2014. Mais après ça, ça s'est très bien... Très bien passé. J'ai pas eu besoin de. Tu sais, il y a bien souvent des fois après une opération, on doit poursuivre avec de la chimio ou bien de la radiothérapie.
Oui.
Dans mon cas, j'ai pas eu besoin.
Peut-être que le fait que vous faisiez déjà de la course à pied, que vous ayez déjà des certaines saines habitudes de vie, ont dû jouer en votre faveur pour combattre la maladie.
Ah, j'imagine que oui. Puis je suis certain que ça m'a aidé aussi à. Côté avoir le positif de cette maladie.
Oui.
Parce que pendant le temps que je faisais des traitements, moi j'ai eu ça mettons en mai. Là, on m'a dit tout de suite après ça que je devais faire des traitements en radiothérapie et puis de la chimio.
Mm.
Puis mon médecin me dit, mon médecin me connaissait.
Mm-hmm.
Il s'est informé, mon médecin de famille, sachant que je courais beaucoup. Mais c'est là qu'à un moment donné, mon médecin m'a dit, oh, Patrice, il faut que tu arrêtes de courir à cause du traitement qui va demander beaucoup.
Oui, parce que ça prend de l'énergie, les traitements. Là. Moi, je connais quelques personnes qui sont passées par des voies similaires, puis il y en a qui ont l'énergie pour, puis d'autres que peut-être pas.
Oui, c'est sûr. Moi, j'ai dit OK, mais ça a duré une semaine. Là, j'ai rendu pour mon médecin, j'ai dit non, j'ai dit, ça marche pas. Là, bon, je peux pas rester là. On dirait que je vais virer plus fou à rien faire.
Ben surtout si on a l'habitude d'avoir toutes les réactions chimiques que cause l'exercice, de plus les avoir, ça doit avoir un effet un peu...
Oui, mais disons que, tu sais, je me disais que, oui, pour combattre le cancer, il fallait que je fasse, il fallait que je reste positif, puis il fallait que je fonce pareil, là. Et... Moi, quand mon médecin m'a dit, OK, Patrice, tu ne peux pas courir plus que 30 minutes ou bien ou 2-3 jours. Là, j'ai dit OK. Puis parce que moi, dans le temps que je courais, disons que c'était vraiment plus des longues distances.
Longues distances, comme à peu près quoi, pour donner une idée?
Oh, peut-être des 20 kilomètres.
Oh là là, OK, oui, la longue distance pour vrai. Là, vous faites juste le dire, je suis un peu essoufflé.
Ce qui a aidé, c'est parce que, disons, j'ai fait beaucoup d'ultra-marathons.
OK.
C'est ça qui m'a aidé. Disons, c'est ça que ça m'a aidé aussi. Là. Moi, quand mon médecin m'a dit, OK, ben, tu ne peux pas courir trop, j'ai dit OK, mais j'ai vraiment pas écouté mon médecin. Moi, j'allais courir pareil. Je ne dépassais pas une heure. J'allais courir peut-être à tous les jours pareil, mais pas plus qu'à une heure.
OK.
Il m'avait dit d'arrêter de courir au moins 2-3 jours avant mon opération. Mais moi, j'ai arrêté de courir la journée avant mon opération.
un petit rebelle de la course, là.
Oui. Oh, oui, c'est disons que c'est ça qui m'a aidé à rester debout, à affronter cette maladie-là. Là.
À passer au travers. Puis vous aviez commencé la course vers quel âge vous-même?
Ah, disons, j'ai commencé ça longtemps. Je courais pas. Je courais, mais je faisais pas beaucoup de compétition. Mais quand j'allais, c'est peut-être courir peut-être à tous les 2-3 jours. Puis quand j'allais loin.
OK.
J'ai toujours couru quand j'étais jeune.
Ah, ben c'est ça. Ça fait partie de votre style de vie. C'est une partie intégrale de qui vous êtes, dans le fond.
Oui, je crois bien que oui.
le travail que vous faites, ben, je sais pas, c'est peut-être du bénévolat. Votre implication avec la Fondation Sur la pointe des pieds, vous êtes un ambassadeur, comme on le disait plus tôt. L'objectif, c'est de changer la vie des jeunes de 14 à 39 ans, quand même, atteints du cancer, pour leur permettre de participer à une aventure thérapeutique. Donc ça, c'est un parcours. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce que ça a lieu bientôt? C'est le 24 février prochain?
Ça va avoir lieu samedi prochain, le 24, en après-midi. Moi, je m'avais inscrit auparavant en 8, dans la soirée.
OK.
Ouais, c'est extravagant. J'ai dit, hey, ça va être le fun, courir en noirceur sur le lac, ça va être le fun. Mais là, quand ils ont su que j'étais une personne venant de Machtoyat, en plus d'être un autochtone, pour eux autres, ils disaient que c'était le premier, ils m'ont contacté. Là, ils m'ont demandé si je serais intéressé à voir changer pour courir durant le jour au lieu de la soirée, en soirée.
Pour quelle raison?
Ben, c'est parce que c'est le premier autochtone qui court sur le lac. En plus que c'est dans nos... C'est sur nos terres au lac Saint-Jean. D'où ce que je viens de Machtoyat. Puis, disons, ça fait assez longtemps. Je suis parti de là, ça fait longtemps, mais je viens de là. Mes racines sont toutes là encore.
OK, donc c'est pour qu'il y ait une plus grande visibilité de votre présence et participation à cet événement-là, c'est ça?
Je crois bien que oui. Mais c'est parce que, disons que j'ai... après mon cancer, j'ai fait ben, des courses de folie, qu'on va dire. Après mon cancer en 2014, quand ma deuxième opération en février 2014, en juin 2014, j'ai décidé de courir de Mississippi à Mastoyats.
Quand même?
Ça a donné 352 km. Puis là, j'avais fait pour le cancer.
À quel moment de l'année vous aviez fait ça?
La même année, 2014.
2014, wow.
Ouais. Puis là, à mon année, j'ai un de mes chums, malheureusement, qui est décédé. Il dit, Patrice, tu devrais essayer Maniotenam, Mississippi.
Ça fait combien de kilomètres, ça?
Ça a donné 1077 kilomètres.
Oh, wow! Ouais. C'est combien de temps, ça, un nombre de kilomètres aussi important que ça?
Ça a été après, ça a donné 10 jours.
Ah, quand même, c'est plus qu'une semaine.
Ça, j'ai fait ça en v'là 2 ans.
OK, en 2021.
Oui, puis ça aussi, c'est encore en fonction avec ramasser des fonds pour la Fondation du cancer.
C'est vraiment honorable. C'est important. Puis le fait que vous soyez le premier, justement, à participer à la Fondation sur la pointe des pieds, puis participer à cet événement-là particulièrement, ça va certainement inciter d'autres Autochtones à joindre le pas. Et puis là, finalement, celle-là, le fait, vous venez de là. C'est 37 kilomètres de course à pied. Est-ce que vous faites le tour du... Parce que là, vous êtes sur le lac parce que c'est gelé. Vous faites le tour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
On va partir de Vauvert, qui est tout près de Dolbeau ou bien Péribonka.
Mm-hmm.
On va s'en aller jusqu'à Robert-Vert, sur le village sur glace.
OK, oui.
Après ça, on s'en va jusqu'au chalet, c'est pas à Chambord. Tu sais, c'est en plus pour moi, là... venant de ma suillette, moi, mais les derniers qui sont partis de la forêt, qui descendaient par le lac dans le temps, c'était mon oncle. T'sais, c'est une affaire en plus que c'est toute une histoire aussi là, quand on me dit OK, tu vas faire ça, Patrice, on va t'envoyer là, mais une de mes soeurs me dit OK, Patrice, savais-tu que le dernier qui est descendu du bois, dans le temps, ça descendait par le lac quand on a du bois. En forêt. Savais-tu que dans ce temps-là, c'était ton oncle qui était le dernier à descendre du bois en venant par le lac?
Ça a vraiment une valeur historique, familiale, sentimentale, ce trajet-là?
Bon, oui. Oui, moi, je ne le savais pas, là, mais disons que c'est un peu plus... si on regarde l'histoire, c'est quelque chose qui va être le fun, là. Je vais pouvoir dire, OK, moi, je ne suis pas descendu du bois, là, mais au moins, j'ai traversé le lac pareil. Là.
Ben, je pense que c'est Serge Bouchard qui disait que les Inuits étaient un peuple de marcheurs, hein, puis de coureurs.
Ouais. Je crois bien que oui.
Ouais, les Cris aussi, moi, je fais partie de la nation Cris, puis voilà, la marche était très, très importante. Là, vous avez l'avantage que vous n'avez pas besoin de ramener un animal avec vous.
Ouais, ou un toboggan lourdement chargé, ouais.
Oui. Ben, c'est parce que c'est ça. Regarde, moi, présentement, je reste la nation créée au lac Mississippi. Puis là, ils font ça, la marche pour les gens qui veulent aller en forêt, puis ils partent d'une autre communauté, puis ils descendent jusqu'au lac Mississippi. C'est quelque chose, c'est une histoire aussi pour les jeunes là, qui embarquent avec eux autres.
Donc, vous, c'est vraiment, ça va être à pied, ce ne sera pas avec de la raquette, là. C'est vraiment course à pied.
Ah, mais ça va être à pied, oui. Puis si j'ai pas le choix, je vais peut-être m'obliger de mettre des raquettes, là. Parce que la dernière fois, je suis allé courir un peu sur le lac. J'ai pogné de la slush, puis... Avec les raquettes, ça aide un peu à pas trop caler.
Oui, oui, parce qu'avec les réchauffements climatiques et tout, on sait que ça peut être délicat un peu, là. On va faire une courte pause musicale, puis on va continuer l'entrevue tout de suite après. Patrice Dominique Ditoumé, Inou de Mashtoyats, qui participe, qui est ambassadeur pour la Fondation sur la pointe des pieds. La chanson qu'on va aller écouter, c'est la chanson de Wolf Castle, a.k.a. De Tristan Grant, mais son nom d'artiste est Wolf Castle, et on va entendre la chanson « Whoop ».
Yeah.
Alors, on écoutait Whoop de Wolf Castle. Wolf Castle est un rappeur et producteur et animateur radio, membre de la nation, de la Première Nation Papineau au Nouveau-Brunswick, donc qui fait partie de la nation Mi'kmaq. Alors, on est de retour avec Patrice Dominique, dit Toumé, et nous de Mashtoyats. Kwekwe?
Oui.
Donc, on parlait plutôt que justement avec les réchauffements climatiques, etc. Le lac, pensez-vous qu'il va être assez gelé le 24 février? Parce que je sais qu'on a parlé avec des membres de l'expédition Première Nation, puis comme plus au nord, là, comme dans le coin de Chibougamau, etc., et d'autres endroits, ils nous mentionnaient que les lacs n'étaient pas gelés et ils ne pouvaient pas embarquer. C'est sûr qu'en skidoo, c'est différent qu'un humain en course à pied. Le poids n'est pas le même.
Est-ce que le Pikuakami, si je le prononce bien, est gelé?
Moi, je pense bien, je pense pas qu'il y aura de problème. Ça va, avec ce que le froid qui est en bas présentement, ça permet la slush de geler là, dessus, la neige, pour faire durcir la neige aussi.
Mm-hmm, ça aide, là, vraiment. Là. Parce
oui.
qu'on s'entend que des plus 5 en février, c'est...
oui.
ça, c'est un peu moins normal.
Donc,
votre participation à cet événement-là, c'est dans le cadre d'une levée de fonds, c'est bien ça?
Oui.
OK, pouvez-vous...
Il demandait au moins de ramasser peut-être 1 500 par participant. Comme il dit, moi, j'ai dit oui, je vais me ramasser le 1 500 aussi. Là, puis on va essayer d'inciter les gens à donner plus pareil. Là.
On a combien de participants pour l'instant?
Je ne sais pas combien... pas loin de 80, je crois, dans les deux parties, là, durant la journée puis la soirée.
Puis, vous êtes le seul autochtone quand même sur tout ce nombre de participants-là. C'est quand même impressionnant. Puis j'ai l'impression que ça risque d'être une mesure incitative. Donc, vous avez déjà amassé votre 1 500 $, M. Dominique?
Oui, oui.
OK. Puis... l'objectif, habituellement, quand il y a des collectes de fonds comme ça, y a-t-il des objectifs à atteindre au complet là, pour pour la Société canadienne de cancer?
Ben ça, mais eux, c'est sur le point des pieds, c'est pour permettre à des jeunes de pouvoir bénéficier des activités thérapeutiques en expédition dans la nature.
OK.
Mais pour le cancer, mettons, si on regarde pour le cancer, comme j'ai fait celui-là de la traversée de Malioutanam à Mississini, mon objectif, moi, c'était de ramasser 10 000 pour la fondation. Wow. Puis j'avais réussi à ramasser 76 000.
C'est vraiment impressionnant. C'est beaucoup plus que 10 000. Donc, si les gens seraient intéressés à donner justement là, pour la fondation sur la pointe des pieds, où est-ce qu'ils doivent se rendre pour faire un petit don? Ou un gros don?
Ils vont dans le site sur la pointe des pieds au moment de la course Cryo.
OK. Et
après ça, ils vont voir, c'est marqué don. Ils pèsent dessus, puis après ça, ils vont voir les noms des gens. Puis ils peuvent marquer mon nom, mettons Patrice Dominique. Là, ils vont donner. Mais moi, ça ne me dérange pas, mais ils peuvent donner à n'importe qui, là. Parce que tout le monde, d'abord, tous ceux-là qui vont participer font la collecte des dons pareil pour ces jeunes, pour les jeunes. Bon, parce qu'à cause que moi, je le fais, que je suis pas là pour dire OK, j'ai ramassé plus d'argent pour les que les autres. Là.
C'est pas un concours.
Alors, pour moi, c'est pas un concours.
Puis,
c'est pas un concours, c'est seulement une participation pour aider.
Si vous acceptez d'être le porte-parole pour la fondation La Pointe des Pieds, c'est que vous avez dû voir les effets que cette fondation-là a eu dans la vie de jeunes. Est-ce que vous en avez vu sur la vie de jeunes de votre communauté?
Non, mais j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jonathan.
OK.
Puis Jonathan, il est déjà passé par là quand il avait 13 ans. Puis là, présentement, il y a 26 ans, j'allais le rencontrer pour voir c'était quoi son. Comment il avait trouvé ça, son expérience avec sur la pointe des pieds dans l'expédition. Puis il avait bien aimé ça. Puis avant de rencontrer Jonathan, moi, j'avais rencontré avec ma copine, on est allé voir chez lui à Chicoutimi. Puis là, il me dit, Patrice, il dit, moi, j'ai une photo de toi avec ma mère. Il dit, moi. Puis là, en montrant la photo avec sa mère, sa mère, je l'avais rencontrée pendant que j'avais fait de la course de Malioutanam à Mississini. Malheureusement, elle avait le cancer, puis ça a été plus difficile pour elle.
Elle n'a pas survécu à son cancer?
Non. Puis là, disons qu'avec Jonathan, on a parlé de son expérience, puis il a trouvé ça bien bénéfique, puis qu'il incite les gens à pouvoir donner afin que d'autres jeunes autochtones puissent bénéficier de cette aventure aussi. Là. Parce que Jonathan, c'était le seul autochtone qui a participé à ça. Mm. Et moi, je fais bien ça aussi, que ce soit qu'il y ait plusieurs jeunes autochtones, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai connus, que j'ai côtoyés, qui font face à cette maladie-là. Puis pourquoi parce que je le voyais déjà avant, c'était sur la pointe des pieds, mais je portais pas plus attention. Mais cette année, je suis vraiment inscrit, je vais aller voir. Et je trouvais ça vraiment valorisant, qu'est-ce qu'il apporte aux jeunes. Puis j'ai rentré en contact avec justement avec la personne qui est responsable de là, puis dire, j'aimerais ça par exemple qu'on puisse avoir... que les informations puissent atteindre toutes les communautés autochtones aussi.
Parce que souvent, c'est le cas. Hein? Il y a des programmes qui existent, mais on n'a pas nécessairement l'information. Puis des fois, ces fondations-là ou ces organisations-là n'ont pas non plus peut-être adapté leur service à notre réalité culturelle.
Ben c'est ça. Puis en plus, parce que des fois, j'ai demandé comment ils allaient chercher les participants.
Mmh.
Là, ils m'ont dit qu'ils allaient directement avec les hôpitaux. J'ai dit, OK, mais j'ai dit, ça serait encore plus bénéfique si vous envoyez les informations dans chaque, dans chaque clinique.
Ben oui.
Des communautés. Eux autres, ils ont la liste de ceux qui sont malades, des jeunes, mettons, ceux qui sont atteints du cancer.
Mm-hmm.
Et à partir de là, ils pourraient, l'information pourrait passer mieux.
Donc, non seulement vous êtes le porte-parole, mais vous allez peut-être être un acteur de changement aussi au sein de cette fondation-là pour amener ces services-là auprès de jeunes autochtones.
Oui, j'espère.
Ben, on espère que la Fondation va vous écouter parce que vous agissez avec beaucoup de générosité, vous êtes même leur porte-parole. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette fondation-là avant aujourd'hui, avant de vous avoir à l'émission. Donc, on espère que ça va aller dans les deux sens, cette réciprocité-là, cette écoute-là.
Oui, c'est parce que c'est pour ça que je vais vouloir peut-être m'impliquer plus après la course, là, afin que toutes les informations puissent atteindre toutes les communautés.
Oui, parce que pour le recrutement d'Autochtones, pour mon expérience professionnelle, c'est que ça prend une approche culturellement appropriée. Il faut aller leur dire des fois, il y a une place pour toi en tant qu'Autochtone là. Sinon, les Autochtones, peut-être, j'ai l'impression que ça change avec les années, mais on dirait que des fois, on n'a pas toujours le réflexe de se dire, ah, là, cette place-là, moi, je peux avoir une place là, je vais y aller, puis je vais prendre ma place. Donc, je pense que c'est les organismes aussi à faire, s'assurer à le mentionner, de dire, hey, il y a une place pour vous ici aussi.
Ben c'est ça. Moi, je pense que ce serait quelque chose qui aurait peut-être une personne qui fait le tour des communautés, rencontre tous les services sociaux, les services santé des communautés. Mm. Et, hey, nous autres, on a un programme pour les jeunes qui sont atteints du cancer, qui font face afin de pouvoir, pour eux autres, de pouvoir bénéficier d'une expédition en nature qui va pouvoir les aider mentalement, physiquement, puis aller au-delà de leur capacité.
De les amener à se dépasser puis de viser une guérison.
Oui.
Patrice Dominique dit Toumé. Gros Chickasometo, vous êtes Inuit de Mastoyage, survivant du cancer, porte-parole pour la Fondation sur la pointe des pieds.
Alors, on vous souhaite une bonne course, un bon succès et une avalanche de dons.
Une avalanche de dons, puis que vous soyez un bon vecteur de changement aussi pour amener ces services-là auprès des jeunes autochtones qui en auraient bien besoin ici.
Tenez-nous au courant. On vous souhaite une bonne journée puis une bonne course. Jeunesse Comitaine.
Je voudrais dire aussi que je suis tellement reconnaissant pour la Fondation de pouvoir de m'avoir sélectionné pour être ambassadeur sur la pointe des pieds.
C'est une super bonne opportunité. Jeunesse Comitaine, à bientôt.
OK, merci.
Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller.
On a réussi à rejoindre Jacques Néwachich. Il est souvent difficile à rejoindre, mais on a, en plus de Maya Cousineau-Mahlen, Christine Berthiaume, qui est la photographe qui a participé à l'exposition avec Jacques Néwachich et Maya Cousineau-Mahlen. Quoi, à vous deux?
Quoi?
On est bien heureuse que vous soyez là aujourd'hui. L'exposition qui s'appelle « Outa, ici, outé ». Ma première question, ça veut dire quoi?
Ça veut dire ici.
Maya, vas-y.
C'est simplement ici, puis outé en Esquimec, puis outé en Innu. C'est simplement ça.
Et ici, c'est quoi qu'il y a derrière ça, ici, cette volonté de dire à ces personnes-là qui sont ici et maintenant? Parce que c'est le portrait de différentes façons de personnages québécois et autochtones, cette exposition-là, si je ne me trompe pas.
Ben là, je vais passer la porte à Christine.
Ben, tout à fait. Dans le fond, ici, effectivement, ça fait référence au moment présent, au moment qu'on a passé avec chacune de ces personnalités-là.
Mm-hmm. Okay.
Mais ça fait aussi référence au territoire, parce qu'on a vraiment parcouru le territoire. On est allé jusqu'à Malioténam pour photographier Florent Volant. On est allé en Abitibi pour rencontrer Richard Desjardins. Donc, on a vraiment, c'est vraiment une question de moment présent et de territoire.
L'idée, c'était aussi de faire quelque chose d'interculturel. Deux artistes autochtones avec une artiste non autochtone, des personnages tels que Gilles Vigneault, Richard Desjardins, Richard Séguin, Roy Dupri, non autochtones, et d'autres personnages, Ghislain Picard, Katia Rock, Florent Volant et Joséphine Bacon pour nommer que ceux-là qui sont autochtones. C'est un peu une idée de faire le pont entre nos réalités puis peut-être nos ressemblances, notre humanité qui est peut-être commune aussi.
Mais moi, je pense qu'on est à une époque où il y a tellement de guerres basées des fois sur des très mauvaises raisons que je pense qu'il faut construire tous les ponts possibles entre différentes nations. Il faut aussi souligner les efforts de tous ces ambassadeurs et ambassadrices de la culture, de la bonne volonté sociopolitique qui œuvrent pour les peuples autochtones au Québec, et souligner justement aussi le beau travail des non-autochtones qu'on retrouve présents avec nous. Et moi, je trouve que c'était essentiel de mettre ça de l'avant. Mais aussi, moi, je suis très heureuse d'avoir travaillé avec Christine. D'ailleurs, Christine, qui est l'une, c'est pas l'instigatrice du projet, et qui projet qui a fleuri à son contact avec Jacques Néouachiche. Jacques Néouachiche, l'insaisissable, l'invisible, mais un jour, on va l'attraper. Fait que je vais laisser Christine continuer là-dessus.
Oui, tout à fait. Dans le fond, ce projet-là est né de la rencontre que j'ai eue avec Jacques. Donc, moi, en tant que photographe, je couvrais un événement, puis j'ai rencontré Jacques. Je suis tombée complètement sous le charme de ce grand bonhomme-là. J'ai dit, il faut que je fasse son portrait. Donc, je l'ai rencontré. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs points en commun. Donc, on a décidé d'aller de l'avant vers un projet comme ça de rencontre et de portrait de personnalité. Puis, s'est joint Maya avec ses mots. Donc, c'est vraiment une rencontre, oui, interculturelle, trois façons de voir les choses, trois perceptions différentes, trois cultures différentes qui vont à la rencontre aussi des différentes cultures qu'on retrouve là, sur le territoire.
Oui, parce qu'on trouve dans les personnalités choisies, on trouve des gens qui ont déjà collaboré ensemble, tant entre autochtones et non-autochtones. Comment la sélection s'est faite? Parce que ce sont tous des artistes, à part peut-être M. Picard, qui est comme peut-être plus dans la politique, mais les autres, ce sont tous des artistes à leur façon, que ce soit en musique, en art visuel ou comme comédien ou acteur. Comment vous avez fait la sélection?
En fait, on est allé vraiment avec l'œuvre des gens, puis la façon dont ils se sont impliqués socialement, humainement. Ils se sont tous prononcés, ces gens-là, par rapport au sujet autochtone dans leur carrière. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on les a choisis.
Puis la sélection des personnes, des personnages autochtones, elle, c'était orienté comment, cette sélection-là?
En fait, c'était orienté beaucoup, je pense, Jacques, c'est vraiment lui, c'est lui le porteur du projet, donc c'est vraiment lui qui a choisi les gens qui l'ont vraiment inspiré au cours de sa carrière, les gens qui a déjà eu la chance de rencontrer aussi, donc on est vraiment parti des choix de Jacques.
Puis,
pour l'accompagner, oui, vas-y.
vas-y, il n'y a pas de problème. Puis, dans le fond, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que là, dans le fond, l'exposition, moi, j'ai eu la chance de l'avoir en virtuel, il y a les photos de Christine, il y a les œuvres de Jacques qui sont basées sur des photos prises par Christine. Toi, Maya, lorsque tu as composé les textes, les poèmes pour chacune des personnalités choisies, et tu en as même écrit un sur toi-même, est-ce que tu t'es basé sur ces images-là de Jacques et de Christine, ou est-ce que tu t'es basé sur toi, ton impression de la personne, ta connaissance des personnes?
Des fois, c'était la photo ou le moment qu'on avait vécu durant la photo. D'autres fois, c'était... Il y a une fois ou deux que j'ai pas pu assister en personne aux rencontres, ou même en personne, c'est arrivé une fois ou deux. Donc, c'était ce que je connaissais de la personne, de son œuvre. Mettons, je vous donner un petit exemple pour Gilles Vigneault. J'étais en personne avec lui, avec Christine et Jacques, et il parlait de sa première rencontre avec un jeune Innu quand il était enfant, puis que les deux parlaient pas la même langue. Donc, moi, ce qui m'est venu, je vais vous donner un petit scoop là, d'un des textes que j'ai écrits. Mm-hmm. Il rêve d'indépendance pour ce territoire, mais l'enfance des mémoires le ramène au rire partagé avec l'enfant d'Anita Sinan blessé. Donc, on connaît le rêve d'indépendance de certains des artistes, mais moi, je suis toujours un petit peu le petit caillou dans le souillon en disant « Hey, on est là, nous aussi! » Donc, juste de se rappeler l'histoire, le devoir de mémoire et tout ça. Bon, je l'ai fait une fois ou deux dans certains textes, et quand on rencontrait des artistes autochtones, comme un exemple, Florent Volant, moi, ce que j'aimais beaucoup souligner, c'est son niveau de calme et de tranquillité. Croyant à l'impossible réconciliation, il est porteur d'espérance tranquille.
Donc, c'est toutes ces choses-là. Quelque chose tourné vers le positif aussi, parce que quand on regarde les nouvelles aujourd'hui, ça, c'est très déprimant et c'est très lourd. Donc, je suis heureux si un peu cette exposition-là amène un peu de lumière ou même de l'émotion forte auprès de gens. Donc, ça, je suis assez fier de nous trois pour ça.
On a aussi Nicole Baumsawin, qui est l'ancienne directrice du musée, qui est beaucoup impliquée dans la culture, dans la valorisation aussi des droits des peuples autochtones. C'est important pour vous de l'avoir parce que l'exposition allait être au musée des Abénakis. Ce lieu-là aussi, c'est important?
Oui. Ben oui, ce lieu-là est très important parce que, si je ne m'abuse, c'est le premier musée autochtone au Québec, je crois.
Mm-hmm. Oui.
Puis c'est Nicole qui l'a fondé, ce musée-là. Puis moi, ma rencontre avec Nicole, ce qui m'a vraiment marqué, ce que j'ai vraiment trouvé beau, c'est que, tu sais, dans le passé, dans sa jeunesse, elle faisait beaucoup de danse. Puis elle en fait encore d'ailleurs. Puis elle était dans une troupe de danse du monde. Puis elle a vu les gens danser, des gens qui venaient de partout dans le monde. Puis elle a eu comme réflexion de se dire, si ces gens-là dansent tous différemment, c'est qu'ils pensent tous différemment. C'est ça qui l'a orientée vers l'anthropologie. Donc, je l'ai fait danser. Je l'ai fait danser devant moi, en fait, quand je l'ai prise en photo. Je la voulais en mouvement, puis ça a donné la photo. Je ne sais pas si vous l'avez vue, là.
Oui.
Mais où est-ce qu'elle tend la main? Donc, oui, c'était important pour nous d'avoir Nicole. Puis, je sais que Jacques la connaissait bien aussi. Là, c'est une amie de longue date de Jacques.
Puis, Maya, ton poème parle aussi de danse, si je ne me trompe pas.
Oui, ben oui. Écoute, moi, ce que j'entends parler d'elle, c'est son travail aussi avec les enfants.
Oui, c'est ça. Ça se reflète dans le dernier...
Ben, c'était ça aussi l'intéressant défi d'écrire sur ces gens-là, c'est de s'assurer que ma poésie, même si c'est ma perception d'eux, reflète aussi ce qu'ils sont. Là. Parce qu'on peut avoir des perceptions faussées ou des perceptions biaisées, mais moi, je voulais m'assurer qu'au moins dans les textes, je trouvais ça comme un défi vraiment intéressant de ramener un peu ce qu'ils sont dans ces poèmes-là. De ramener aussi ce que je perçois de leur humanité également.
Pour la prise de photo, Christine, donc, comment ça se déroulait au départ? Un coup que vous aviez décidé que les inviter avec Jacques, là, dans le fond, je comprends que Maya et Jacques étaient là aussi. Combien de temps ça durait? C'était quoi l'approche?
Bien, en fait, on allait les rencontrer souvent dans leur milieu, chez eux, dans leur maison, leur chalet. Puis parfois, comme avec Armand Vaillancourt, par exemple, ça a duré une journée, là, pendant une journée de temps. Puis Armand Vaillancourt, il a beaucoup d'énergie, puis il a beaucoup de choses à dire, fait que quand je suis sortie de là, j'étais brûlée. Il a 95 ans, mais il y en a dedans. Puis en fait, pour certaines autres rencontres, ça a été plus court. Mais on a quand même passé un bon 2 heures facilement avec chaque personne, puis ça se déroulait vraiment comme une rencontre informelle, une conversation. Moi, j'étais là un peu en observatrice, donc je les écoutais jaser, puis pendant ce temps-là, je réfléchissais, je regardais autour de moi, je regardais l'environnement, la lumière, puis je réfléchissais à comment je pouvais mettre en scène ces gens-là pour leur rendre hommage à travers un portrait. Donc, dans tous les cas, ça a été vraiment de l'improvisation. Avec Armand Vaillancourt, je l'ai installé dans le champ. Lui, il est né là, à Plessisville. Donc, ça représentait vraiment la terre. C'est un homme qui est issu d'une grande famille, qui a vécu sur une terre. Donc, je voulais vraiment le planter là comme un géant. Puis, Richard Desjardins, en Abitibi, je voulais qu'on sente qu'on était en Abitibi. Donc, tu sais, c'est important pour moi aussi de sentir l'environnement autour.
Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez avec des Autochtones?
Moi, avec des Autochtones, oui. Tu sais, je connaissais déjà Jacques. J'avais déjà travaillé aussi avec le Centre d'amitié autochtone ici à Shawinigan, donner des ateliers de photographie. Mais c'est vraiment le premier grand projet, là.
Est-ce que ça vous a donné envie de travailler davantage avec les Autochtones? Est-ce que vous avez fait des découvertes par rapport aux Autochtones à qui nous sommes?
Ben oui, certainement. Moi, c'est sûr que ça m'a donné envie parce que c'est en tant que... Tu sais, moi, tu sais, j'ai rencontré Christine Beaulieu là, dans le cadre du projet, puis moi, son J'aime Hydro m'a beaucoup inspirée parce qu'elle dit toujours dans J'aime Hydro, moi, je suis pas une experte de l'hydroélectricité. Tu sais, moi, je n'étais pas une experte des Autochtones. Tu sais, j'en connaissais pas plus que n'importe qui, mais je suis extrêmement curieuse de l'autre. Puis, tu sais, c'est sûr que tout le rapport avec la nature est super inspirant dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Notre rapport à l'environnement, notre rapport au territoire, tout ça, c'est quelque chose qui, spirituellement, qui est super inspirant. Puis, j'ai envie de m'inspirer de ça, là.
Parce que, comme le disait Maya tout à l'heure, quand on parle de la souveraineté, de toute façon, c'est mon opinion personnelle, mais sans les Autochtones, ce serait impossible.
Oui, complètement. Ouais.
Donc, il faut collaborer tous ensemble si c'est une vision commune. Pour ta part, Maya, tu as déjà travaillé avec d'autres Allochtones. Est-ce que cette expérience-ci se démarquait de d'autres expériences que tu avais eues dans le passé?
Ben, elle se démarquait, en fait, parce qu'il y avait un grand trait commun, c'était l'humilité qui habitait chaque personne. Mmh. Et juste entre parenthèses, Jacques est disponible, il dit qu'on peut l'appeler maintenant si vous voulez le joindre de manière inopinée, il est disponible maintenant, il vient de m'écrire.
Ouais, il nous reste une minute, puis on a le studio seulement pour une période de temps vraiment limitée, donc... malheureusement, le temps qu'on le rejoigne, on pourrait lui dire bonjour, bye. Donc, on va se reprendre pour Jacques, mais certainement, ses œuvres sont tout aussi importantes que celles de Christine et de Maya.
Il a fait comme le lien. Il a fait le lien entre les photographies de Christine, qui sont saisissantes, et les textes. Donc, ça retouchait un peu aussi les deux œuvres. Et ça faisait un pont intéressant quand il explique, je l'écoutais expliquer à des gens lors du vernissage à Odanak, et c'était vraiment intéressant ce qu'il disait par rapport à sa perception de tel artiste ou de telle chanteuse, des choses de même. C'est vraiment enrichissant. Fait que j'espère que vous allez pouvoir peut-être le rattraper pour une entrevue juste lui tout seul. Mais... ouais, donc...
L'exposition est au Musée des Abénakis jusqu'au 17 mars 2024. Est-ce qu'on a l'intention de faire voyager cette exposition-là après le passage au Musée des Abénakis?
Oui, certainement. C'est vraiment c'est dans nos désirs de faire voyager cette expo-là. Pour l'instant, on n'a pas de date confirmée, mais on travaille là-dessus. On aimerait pouvoir... retourner dans les communautés, puis l'offrir aux communautés aussi, cette expo-là, pour qu'ils puissent la voir.
Oui, moi-même, je verrais même peut-être un livre avec tout ce beau contenu-là aussi.
Ah, nous autres aussi, on voit ça!
Ouais, on a les mêmes visions.
Quand on parlait de vision commune, justement.
Oui. Donc, peut-être même une phase 2, tu sais, peut-être même, parce que tu sais, il y a plein de monde qu'on n'a pas rencontré encore, là, qui mérite d'être dans ce projet-là. Mais tu sais, on peut pas tout faire en même temps, mais on aimerait pouvoir poursuivre les rencontres. Là.
Donc, Ota Issi-Outé, phase 1.
Christine Bertillon, photographe.
Et Maya Cousineau-Molène, autrice. Bien sûr, Jacques Néwachiche participe aussi à l'exposition. Si on a l'occasion, on va s'entretenir avec lui à un autre temps. On vous remercie les deux pour votre temps. C'était vraiment agréable d'échanger là-dessus. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'invite vraiment les gens à aller faire un petit tour au Musée des Abénakis d'ici le 17 mars pour Ota Issi-Outé.
Merci beaucoup.
Au
merci.
Merci.
Au revoir.
Alors, on va poursuivre en musique avec Julian Taylor et sa chanson « Seeds ».
Now here you are, you're in for flower. You're flexible in all your power. You got all the sunlight in the air that you need. They tried to bury us, but they didn't know we were seeds. Now here you stand, hour after hour, strong as an oak, tall as a tower. The storm keeps raging, but you never pay no heed. They tried to bury us, but they didn't know we were seeds. Somehow, everything eventually dreams. Someday, somehow, everyone eventually dreams. Someday.
I see you shining strong and clear. No one can stop a good idea, nobody like you. There's nobody like you. I was a flower, I was an oak. I was provoked, and when I awoke, I started praising for all the things that I need. They tried to bury us, but they didn't know we were seeds. They tried to bury us, but they didn't know we were seeds. Somehow, everything eventually dreams. Someday, somehow, everyone eventually dreams. Someday, they knocked you down, erased your name. You stood your ground and wouldn't change. You found a place now, standing alongside the trees. They tried to bury you, but they didn't know we were seeds. You are a star and you are hope. Smoke signals in the air evoke from the darkest depths that our hearts can be freed. They tried to bury us, but they didn't know we were seeds. They tried to bury. Somehow, everything eventually dreams. Someday, somehow, everyone eventually dreams. Someday, somehow, everything eventually dreams. Someday, somehow, everyone eventually dreams.
Alors, on écoutait Julian Taylor avec Seeds. Julian Taylor est un afro-autochtone d'origine indienne de l'Ouest et Mohawk, qui vit présentement à Toronto, mais est d'origine de Kanawagé aussi.
Il va falloir faire passer du métal à un moment donné.
Parfait, je prends ça en note. Dès la semaine prochaine, je te trouve du métal. Oh, j'en connais.
Ah oui?
Moi, je connais un groupe Mi'kmaq qui faisait du gros métal qui accroche.
Bon.
Fait que préparez-vous, les auditeurs, la semaine prochaine, ça va décaper. La loi C-92,
oui,
c'est
la loi
historique.
Sur les jeunes des Premières Nations, Métis et Inuit, communément appelée la loi C-92, était contestée par le gouvernement du Québec. Qui a fait un renvoi à la Cour d'appel du Québec il y a en 2019. La Cour d'appel du Québec a rendu son jugement en 2022. Dans son jugement, la Cour d'appel du Québec reconnaissait que les peuples autochtones avaient le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et reconnaissait au gouvernement fédéral la capacité de pouvoir faire ce genre de déclaration-là.
Mm.
Sauf que il limitait un petit peu la portée de la loi avec l'article 21 et 23. Et ça a été ramené à la Cour suprême. Et la Cour suprême a pris un tout autre chemin en décidant que c'était de ne pas le reconnaître comme un droit ancestral, l'autonomie gouvernementale, et d'y aller dans le cadre très restrictif du partage des compétences. En disant que le gouvernement fédéral avait la capacité de faire cette délégation-là de pouvoir. C'est les mots qu'ils ont utilisés, mais c'est ça que ça veut dire.
Donc, le Québec disait que c'était le gouvernement fédéral qui devait faire ça.
Non, le Québec disait que le gouvernement fédéral, en ayant fait ça, changeait la Constitution du Canada de façon unilatérale. Puis pour changer la Constitution canadienne, il faut une conférence des premiers ministres, souvent des référendums, ou pour que, par exemple, quelque chose soit constitutionnalisé comme un droit ancestral, ça doit être déterminé par les tribunaux. C'est un pouvoir qui revient au judiciaire. Donc, la Cour suprême a dit non. On n'avait pas besoin de passer par tout le chemin que la Cour d'appel pour reconnaître la validité de la loi. Selon le partage constitutionnel, donc, le Canada peut déléguer des pouvoirs et toute la loi est valide dans la mesure où ça reste dans un cadre constitutionnel sous l'autorité du Canada. C'est une bonne nouvelle parce que ça permet d'avancer dans la création des lois. Mais de l'autre côté, on espérait vraiment que la reconnaissance du droit à l'autonomie gouvernementale soit déclarée comme constitutionnelle sous l'article 35 de la loi de 1982 parce que ça ouvrait le champ à l'autonomie gouvernementale dans bien d'autres domaines. Mmh. Mais on va reparler la semaine prochaine avec une invitée spécifiquement sur ce sujet-là.
Oui, j'ai bien hâte d'en parler avec une prochaine invitée. On va parler vraiment plus en détail parce que c'est historique et ça affecte beaucoup de gens dans toutes nos communautés.
Clairement. C'est ça. Les Sœurs Gill.
Les Sœurs Gill. Donc là, il y a eu des développements. Donc on rappelle le contexte où est-ce que il y avait deux jeunes dames, donc Nadia et Amira Gill, les filles de Manji Gill. Ont eu une compagnie qui...
Et permets-moi de spécifier que c'est pas des guildes au Danac.
Oh non, pas du tout.
De Mastayache.
Non, pas du tout. C'est vraiment, en fait, elles sont d'origine indienne de l'Est.
Indienne de l'Inde, là.
Oui. Et donc, elles étaient enrôlées auprès des Inuits, là. Ils avaient fait passer... une dame inuite qui était très, très surprise de voir que, ben voyons, j'ai déjà rencontré leur mère quand elle est venue travailler en communauté.
C'est ça, leur mère avait été travailler en communauté et elle avait déclaré qu'une dame inuite était sa mère.
Oui.
Ce qui lui permettait d'avoir un numéro de bénéficiaire du traité là-bas, si je comprends bien.
Exactement, exactement. Donc, la semaine passée, ils avaient eu une première date de cours. En fait, ça fait deux fois qu'ils étaient allés en cours.
Oui, on avait parlé un petit peu la semaine dernière qu'ils étaient accusés pour fraude. Mais cette semaine, on voit les chiffres, on parle de 162 000 $.
158 pour être précis, 2 000 de moins.
Mais c'est quoi ça, le 158 000? C'est comment que ça a été attribué?
En fait, c'est différentes organisations qui donnaient des fonds pour les études de ces deux filles-là, des deux jumelles.
Mais quelles études qu'ils ont faites pour 158 000
$? Il n'y a pas juste ça. Il y a les études de chacune. Après ça, ils ont parti une compagnie aussi où est-ce qu'ils vendaient de l'art autochtone.
Donc, ils ont eu une subvention?
Oui.
Pour partir ça?
Pour partir la compagnie.
Puis, ils ont fait combien de profits avec leur compagnie?
Ah, tu me donnes mal à la tête, j'ose pas y penser, honnêtement. On n'a pas les chiffres là-dessus, mais c'est vraiment intense. Là. Les organisations inuites qui ont donné au-dessus de 158 000 $ de façon frauduleuse cette famille-là, là, c'est vraiment... c'est clair que ça a une influence parce qu'ils ont pris la place de quelqu'un d'autre. Ils ont pris le financement de quelqu'un d'autre. Donc, ils ne s'étaient pas présentés en cours. Là, ils se sont présentés. Là, ça soulève quand même un tollé parce qu'il y a Manji qui, elle, s'est déclarée coupable. Elle a plaidé coupable.
Ça, c'est la mère, ça.
Oui. Et les deux filles, toutes les charges ont été abandonnées.
Pour qu'elle soit coupable.
Exactement. Donc là, il y a un tollé où est-ce qu'on dit, ben là, elles étaient adultes, elles savaient ce qu'elles faisaient.
Est-ce qu'on parle de remboursement des 158 000?
Il n'y en est pas question nulle part, mais on s'entend que plusieurs aimeraient beaucoup avoir ça.
Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec ce genre de situation-là?
Il va vraiment falloir qu'il y ait une réglementation fédérale. J'en glissais un mot un peu la semaine passée, que justement, là, il y avait... en tout cas, c'est le gouvernement de la Saskatchewan qui est en train d'essayer de se prévaloir...
Parce que la semaine dernière, on parlait d'une
législation.
Une politique fédérale.
Oui.
Là, ce serait la Saskatchewan.
Oui, c'est ça, exactement. Ben, c'est une politique fédérale, mais c'est par le gouvernement de la Saskatchewan à date. Donc, il faut vraiment que toutes les provinces se mettent d'accord. Puis je pense que l'Assemblée des Premières Nations pourrait certainement être inclue aussi dans ce processus-là. C'est à suivre parce qu'il y a des fraudes à plusieurs niveaux. Là, on appelle ça des fraudes. Dans le cas de ces femmes-là, de cette famille-là, ça peut être plus facile d'appeler ça une fraude parce qu'elles ont usurpé un statut.
Oui, puis ils ont eu des accusations en plus pénales.
Oui, oui.
Petite bonne nouvelle, dernièrement, il y a eu le premier vol de deux femmes inuites avec Air Nuit, Zoé Cronenberg et Melissa Haney qui ont fait...
Ah, c'était tellement inspirant.
Oui.
J'ai vu la photo passer sur les réseaux sociaux, les deux beaux sourires, puis on voit clairement que c'est deux femmes inuites. On espère que c'est les deux premières et que plusieurs vont suivre leur chemin.
Ben, ils pilotaient déjà avant, mais c'était la première fois qu'on avait deux femmes inuites qui contrôlaient l'avion ensemble.
C'est pas des petits avions, là, c'est des gros, gros avions. Alexis, c'était un plaisir d'animer avec toi. Donc, je suis animée avec Alexis Wawanolat.
Et Sophie-Claude Miller.
Mm-hmm. À la recherche, on a Claire Guérin, Sylvestre Déterre.
Et Mathieu Tessier en régie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.